Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h.
Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. Cette semaine, vous le savez, c'est avec Agnès. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le gouvernement cherche plus que jamais une majorité parlementaire naturelle. Déclaration du porte-parole Olivier Véran il y a quelques instants. À la veille du vote de la réforme des retraites, la commission mixte paritaire tente de trouver un compromis. Les téléphones chauffent pour les dernières tractations et pendant ce temps, eh bien, 8e journée de mobilisation partout en France. Et puis il y a cette question, faut-il réquisitionner les éboueurs ?
C'est une bonne chose, si on peut, parce que ça devient assez invivable. En tout cas, moi j'habite le 8e et je travaille dans le 9e. Et la situation, surtout depuis hier, c'est par terre dans la rue et c'est même plus sur le trottoir. C'est très désagréable.
Quand la grève des poubelles devient un enjeu politique, de nombreuses villes sont touchées par le mouvement. Pour l'heure, aucune réquisition. Mairie, préfecture, chacun se renvoie la balle.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Les irréductibles ne vivent pas uniquement dans un village à Belle-Île-en-Mer, peu d'habitants, mais la mobilisation ne faiblit pas, vous allez l'entendre. Par ici, les bonnes affaires depuis ce matin, normalement dans les supermarchés, des logos trimestre anti-inflation doivent indiquer les prix les plus bas. Nous sommes allés vérifier, il y a du retard dans les rayons. À midi 20, RTL, votre vie, elle peut faire défaut. Elle peut être d'éléphant ou de poisson rouge. Nous parlons de
mémoire, la mémoire.
Bien sûr. Oui. Enfin, juste avant 13h, vous le disiez, Pascal, nous soufflerons les bougies d'une dame, une
mais
grande
oui.
dame. RTL fête ses 90 ans.
Allez-vous allumer la radio tous les jours ?
C'est la question du jour, exactement, sur RTL.
Vous avez écouté ce matin le surf avec Cyprien Sini et Michel Drucker appelant pour la valise. C'est des moments formidables. Tous ces sujets, évidemment, on pourra en parler à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. On fera un spécial 90 ans d'RTL.
Mais avant cela, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour à vous, pardon.
Bonjour, non, mais je vous en prie, Agnès. Bonjour à tous.
En un mot, ce qui nous attend cet après-midi, Peggy.
Un temps plus calme avec plus d'éclaircies.
RTL Midi.
8e journée de mobilisation dans la rue, 200 rassemblements prévus dans toute la France. Certaines manifestations ont eu lieu dès ce matin. Et sont-elles à l'image de notre sondage Touluna Harris Interactive ? 83% des personnes interrogées estiment que la réforme sera adoptée quoi qu'il arrive. Alors est-ce le cas au Puy-en-Velay où vous vous trouvez pour RTL, Frédéric Perruche ? Autrement dit, y a-t-il moins de monde aujourd'hui ?
Oui, moins de monde assurément que la semaine dernière, le pic de la mobilisation, mais quelques 3 à 4 000 personnes au maximum défilent autour de la ville, soit la moyenne basse du mois de février, regrette Stéphane du groupe privé FH.
Voilà, les gens se plaignent et puis ils sont devant leur bureau ou n'importe où, dans leur camion et ils ronchonnent parce qu'ils ne sont pas contents, mais tout le monde avait fait un effort, le de ronchonner... On ne peut pas toujours ronfler dans sa barbe et pas manifester son mécontentement. Des fois, il faut faire un effort.
Alors dans le cortège, des agents du service public présents en masse, des retraités, peu de privés, peu de jeunes, mais pas de démobilisation pour autant, selon Christelle, infirmière.
Un petit peu moins de monde, je ne sais pas. Il faut voir à la fin de la journée et compter les participants. Après, je pense que la motivation, elle est toujours là. On a des conditions de travail qui sont difficiles. On a une obligation de soins H24, donc voilà, faire 2 ans de plus minimum pour certains, avec une retraite pas toujours décente, bah non, c'est non quoi, et on lâchera pas.
Moins de monde donc, mais la colère, vous l'entendez, ne retombe pas.
Frédéric Perruche pour RTL, autre enseignement de notre sondage Touluna Harris Interactive, 8 Français sur 10 sont opposés à l'article 49.3 et le gouvernement veut absolument éviter de dégainer cette arme constitutionnelle. Écoutez le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, c'était il y a quelques instants.
Plus que jamais, le gouvernement cherche à ce qu'une majorité naturelle puisse soutenir cette réforme urgente, cruciale pour notre pays. La Première ministre l'a dit, je reprendrai ses mots, le vote pour le projet que nous portons n'est pas un soutien au gouvernement, encore moins un blanc-seing. Ce n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote de responsabilité.
Un mot pour vous dire que le trafic est toujours perturbé aujourd'hui à la SNCF. Comptez 3 TGV sur 5 en moyenne, 1 intercité sur 3 et 2 TER sur 5.
Et pendant ce temps, cela fait 3 heures maintenant que la commission mixte paritaire a commencé.
Cette fameuse commission qui réunit 7 députés et 7 sénateurs pour tenter de trouver un texte de compromis sur la réforme des retraites avant le vote demain. Dès hier, la présidente de l'Assemblée nationale a dit que les débats se passeraient à huis clos. C'était sans compter sur les réseaux sociaux côté NUPES, Marie-Bénédicte Allaire.
Bah oui, faute d'obtenir la retransmission des débats, la NUPES a décidé d'en faire un compte-rendu à flot quasi continu sur les réseaux. Le RN Thomas Ménager s'y est mis aussi. Et du coup, les autres membres de la commission, macronistes et LR, sont venus parler aux journalistes il y a quelques minutes. C'est donc une CMP assez inhabituelle.
Sur le fond, y a-t-il des avancées ?
Bah écoutez, ce matin, c'était la discussion générale et les parlementaires commencent tout juste à entrer dans les détails. Cela dit, comme il y a eu des concertations en amont entre majorité et droite, on sait qu'un accord a été trouvé sur les 43 annuités pour les carrières longues, comme l'explique le député Modem, Philippe Vigier.
C'est 43 ans pour tous ceux qui ont démarré avant 21 ans. On met fin à cette anomalie qu'on avait tous constatée. Vous démarrez à 16 ans, vous finissez à 59 ans, vous démarrez à 17 ans, vous finissez à 60 ans. 59 ans, en démarrant à 16 ans, vous allez travailler 43 ans. 60 ans, commençant à 16 ans, vous avez donné 44 ans.
Alors ce sera 43 ans pour tous ceux qui ont commencé avant 21 ans, avec tout leur trimestre.
Ah, une petite coupure pour Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, en direct de l'Assemblée pour RTL.
RTL Midi.
L'attention ne retombe pas après la chute d'un drone américain en mer Noire. Les États-Unis accusent l'aviation russe d'avoir intercepté, abattu l'engin militaire. C'est faux, répond le Kremlin. Moscou et Washington sont au moins d'accord sur une chose, Sophie Jousselin, c'est à celui qui le retrouvera le premier.
Oui, parce que l'enjeu est important déjà pour comprendre encore mieux ce qui a pu se passer, mais aussi parce que ce drone est un appareil de très haute technologie que les Américains ne veulent surtout pas voir tomber dans les mains des Russes. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, a d'ailleurs déclaré ce matin que les autorités américaines avaient pris des mesures pour que ça n'arrive pas, sans en dire plus. L'appareil est équipé de matériel très sophistiqué, de capteurs ultra modernes, utilisés pour le renseignement, l'espionnage. Donc depuis hier, c'est la course. Le drone est tombé à une soixantaine de kilomètres des côtes de la Crimée, donc à portée de navires de la flotte russe, hein, juste à côté. Et selon certains comptes Telegram, les Russes auraient déjà retrouvé des morceaux de l'appareil, mais rien n'est officiel. Et côté occidental, des avions auraient décollé des bases de l'OTAN en Roumanie pour tenter de repérer l'épave du drone.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Merci Sophie. Pendant ce temps, Vladimir Poutine reçoit Bachar el-Assad. Le président syrien s'entretient avec son homologue russe à Moscou dans le cadre d'une visite officielle. Un mot pour vous dire que les bourses européennes s'enfoncent encore un peu plus, plombées par le secteur bancaire au centre des inquiétudes des investisseurs, notamment concernant Crédit Suisse. La météo. On vous retrouve, Peggy Broche. C'est plus calme.
Ah oui, beaucoup moins agité que les jours précédents, c'est vrai Agnès, même s'il reste du vent près de la Méditerranée. Mistral et Tramontane soufflent un peu à 70 km/h, mais rien à voir avec ce qu'on a eu ces derniers temps. Donc globalement, plus calme, plus d'éclaircies, notamment, ça va se dégager, hein, ça se dégage tout doucement au fil des heures entre le sud-ouest et le nord-est, même s'il reste quelques nuages, mais l'impression est plutôt plus lumineuse. Entre les Pyrénées et un quart sud-est, c'est bien ensoleillé jusqu'à la Corse, avec un fort risque d'avalanche sur les Savoies, donc prudence. Et sur le nord-ouest, là, un temps qui va être plus nuageux que ce matin, surtout entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Vendée. Au fil des heures, les nuages seront plus nombreux, ce qui n'empêchera pas quelques éclaircies, quelques gouttes également du côté des Ardennes. Et ça, ce sera bien gris et bien couvert avec quelques gouttes entre la Bretagne et la Normandie. Tout ça sous des températures qui sont un petit peu juste au nord et douces, voire de saison au sud. 8 à Langres, 9 à Mulhouse, 10 à Lille, 11 degrés du côté du Havre, 12 à Paris et à Lyon cet après-midi, 14 à Limoges, 17 à Bordeaux, 18 à Bastia et 19 à Perpignan.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous. C'est un nom qui fait rêver, Belle-Île-en-Mer. Nous partons donc pour le Morbihan, 56 000 habitants pendant l'hiver.
Bonjour Nicolas Bobby.
Bonjour.
Depuis le début du mouvement de contestation, ils sont des dizaines chaque semaine à manifester contre la réforme des retraites, comme sur le continent. Encore ce matin, qui sont ces irréductibles, Nicolas ?
Eh bien, ces Bélilois qui ont bloqué ce matin la seule rue permettant de quitter le port de Le Palais où je me trouve, la capitale de Belle-Île-en-Mer, à l'arrivée du ferry de Quiberon, sont en majorité des retraités toujours très actifs sur le plan syndical. Ils sont présents donc à chaque manifestation. Dominique est l'une des fers de lance de la CGT.
Parce qu'on a plein de métiers précaires et invisibles, femmes de ménage, serveuses, maçons et tout ça, qu'on ne voit jamais, qui touchent que le SMIG et qui ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans.
Certains de ses amis sont cabossés par une rude vie professionnelle, obligés de porter par exemple des prothèses de hanches, marchent avec des cannes, mais ils étaient là. Olivier, lui, est toujours employé à l'hôpital de Belle-Île comme aide-soignant. Il souffre tous les jours.
Bah, oui, l'hiver, c'est très dur. On a froid et on est debout toute la matinée. Et moi, je vois, j'ai de l'arthrose, j'ai une discopathie, j'ai une scoliose. Et j'ai que 56 ans, donc ça fait presque 30 ans que je fais ce métier sur les marchés. C'est très dur, quoi. Et je vois pas comment je vais aller jusqu'à 64 ans. Hein. J'ai fait 3 enfants. J'estime que 60, 62, c'est très, très bien. Et la vie est chère, très chère. Nous, le poisson, ça grimpe aussi. C'est pas évident, hein.
Nicolas, on peut dire que Belle-Île est un paradis, certes, mais si on a un gros carnet de chèques.
Oui, absolument. 56 000 habitants l'hiver, vous l'avez dit tout à l'heure, 40 000 l'été. Belle-Île, c'est donc un décor de cartes postales, des phares superbes, des plages, des criques. Certains insulaires n'achètent pas totalement la carte postale. Le travail à l'année est particulièrement difficile, fatigant. Poissonnière, Karine fait les marchés.
Oui, l'hiver, c'est très dur. On a froid et on est debout toute la matinée. Moi, je vois, j'ai de l'arthrose, j'ai une discopathie, j'ai une scoliose et j'ai que 56 ans. Donc ça fait presque 30 ans que je fais ce métier sur les marchés. C'est très dur, quoi. Je vois pas comment je vais aller jusqu'à 64 ans. Hein. J'ai fait 3 enfants. J'estime que 60, 62, c'est très, très bien. Et la vie est chère, très chère. Nous, le poisson, ça grimpe aussi. C'est pas évident, hein.
Vous ajoutez à cela des prix exorbitants pour se loger, l'impossibilité pour les insulaires de trouver un petit appartement ou une maison et le gasoil qui arrive par bateau au prix du caviar. 2,24 € le litre. Le samplon 95 est à 2,33 €. Alors beaucoup ici se déplacent sur des petites motos.
Merci beaucoup Nicolas Bobby en direct depuis le port de Belle-Île-en-Mer pour RTL.
Une première pause dans ce 12-13, réquisition ou pas réquisition dans la ville de Paris. À tout de suite.
RTL Midi.
Pascal Praud, Agnès.
RTL Midi.
Pascal Praud et Agnès Bonfillon.
Je trouve que ce serait effectivement très bien que ça s'arrête et que des éboueurs viennent nettoyer toutes les poubelles qui sont dans les rues actuellement. On n'en peut vraiment plus. C'est vraiment très désagréable d'avoir ces poubelles devant chez soi et ces odeurs qui commencent à arriver avec le temps qui se réchauffe. Moi, je trouve qu'ils ont suffisamment expliqué leur mécontentement après 10 jours de grève. On a compris qu'ils étaient très mécontents. Voilà, là, je pense qu'il y a un moment où il faut récupérer tout ce qui est dans la rue.
Les poubelles qui s'amoncellent à Paris. Et pourtant, la maire, Anne Hidalgo, dit ne pas avoir le pouvoir de réquisitionner les éboueurs en grève contre la réforme des retraites. C'est ce que demande le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À l'instant, le gouvernement accuse Anne Hidalgo d'imposer aux Parisiens l'accumulation des poubelles. Version contre version, on a du mal à s'y retrouver. Heureusement, vous êtes là, Arnaud Touche. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Concrètement, que peut-il se passer dans les heures qui viennent ?
Alors, j'ai une info ce midi, c'est que dans tous les cas, Anne Hidalgo ne réquisitionnera pas justement les éboueurs. Ça, c'est ce que me souffle un proche conseiller de la maire. La maire, en fait, elle soutient la grève, c'est très clair, depuis le départ, et les grévistes, et maintiendra cette position. De toute façon, ça c'est certain. Ce qui risque donc de se passer, c'est que le préfet de police de Paris prendra un arrêté de réquisition pour que la situation s'améliore dans la capitale. Quand ? Ça, c'est impossible à savoir pour le moment. Le ministre de l'Intérieur, il a appelé Anne Hidalgo hier soir, lors d'un échange cordial, me dit-on. Mais la mairie dit ne pas avoir reçu un courrier officiel ce matin demandant à la mairie de réquisitionner les grévistes. Et le ministère de l'Intérieur m'indique le contraire en disant que cela a été notifié ce matin à la mairie de Paris. Bref, on se dirige tout droit vers une réquisition des éboueurs par l'État, ça c'est très clair.
Bon, ça peut se faire par la force ?
Oui, car les salariés sont notifiés de cette réquisition, effectivement, par les forces de l'ordre. Alors généralement, c'est le préfet qui envoie l'arrêté de réquisition à l'entreprise qui va elle-même désigner les salariés. Donc par exemple, si c'est une entreprise de Richebourg, ben, l'entreprise de Richebourg dira eh bien, il y a tel et tel salarié qui vont travailler dans tel et tel arrondissement. Le refus de se soumettre aussi à un ordre de réquisition constitue un délit. Il est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende. Il faut savoir que bien souvent, ces arrêtés sont contestés, notamment par les syndicats. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les syndicats disent qu'il y a aussi un respect du droit de grève à avoir. Et ça s'était passé notamment à Marseille, il y a quelques années, pour une pareille, le même motif. La réquisition avait été ordonnée par le préfet. Et là, c'est le syndicat FO qui avait effectivement attaqué cet arrêté.
Donc, quand bien même il y aurait réquisition de la part de la préfecture, il faudrait quelques jours avant un retour à la normale ?
Dans tous les cas, c'est certain, parce que en fait, la réquisition, ce n'est pas un service, ce n'est pas un retour à la normale à 100%. Dans tous les cas, c'est un service minimum en réalité. Parce que sinon, effectivement, le préfet irait contre le droit de grève. C'est pour ça que c'est compliqué en ce moment. Donc, même si ce soir, le préfet dit à ce moment-là, oui, on va réquisitionner. Déjà, il faut les trouver, ces personnes-là. Il faut qu'elles soient notifiées. Elles vont commencer à travailler, ça, c'est certain. Mais admettons qu'il y ait 100 employés. Bah, il n'y aura pas 100 employés, en fait. Il y en aura peut-être 10, 20. Donc, ce sera un service minimum jusqu'à la sortie du conflit.
Et sortie du conflit, on ne sait pas quand, bien sûr.
Non.
Ce conflit va s'arrêter.
Non.
Il y a une forme d'inquiétude très grande. Et il y a des arrondissements qui sont
10. La
privilégiés.
Moitié, la moitié des arrondissements sont effectivement publics. La moitié sont privés pour la collecte. Le privé, effectivement.
Mais les réquisitions, vous avez dit tout à l'heure Richebourg, mais les réquisitions là c'est sur du public.
Oui, effectivement j'ai dit de Richebourg, mais parce que c'était pour une entreprise, parce que typiquement parfois il y a des
parce que là la réquisition ça sera de réquisitionner des fonctionnaires de la ville de Paris.
Absolument, oui, et pas que, parce qu'il y a aussi évidemment les trois incinérateurs aussi qui sont bloqués, il y a deux conflits.
Mais ça c'est des fonctionnaires,
oui, absolument.
Ces gens-là. Donc le préfet va demain réquisitionner des fonctionnaires.
Au moment ou un autre, il va devoir, oui effectivement, dire à ces personnes-là, il faut travailler. Oui,
c'est eux qui sont en grève.
Et le préfet, pour prendre cette décision, cette éventuelle réquisition, doit s'appuyer sur l'avis de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé ?
Oui, effectivement. Elle vient d'accroître son niveau de vigilance à Paris et surveille les augmentations dites inhabituelles des pathologies liées à la situation. Elle s'est rapprochée des laboratoires de la ville de Paris, qui surveillent notamment les rongeurs dans la capitale. Et elle fait également des préconisations également avec le risque numéro 1. En ce moment, c'est la chute. On a vu qu'il y a effectivement des personnes qui ont chuté dans Paris à cause de ça, notamment les malvoyants, effectivement. Ça, c'est le risque numéro 1. La surveillance des enfants, bien sûr. Là, elle doit être également à nouveau... il faut surveiller ses enfants, tout simplement. Ça, c'est ce que dit l'ARS. Et elle encourage également au lavage des mains, bien sûr, en ce moment.
Merci beaucoup,
Arnaud Touche. Merci beaucoup. Dans un instant, une nouvelle pause. RTL Midi, votre vie. Mais je ne sais plus du tout de quoi on va parler.
Ah bah, ça m'arrange pas, ça.
On va parler de quoi ?
Ah,
la
joli.
Mémoire,
oh là là, bravo. Mais quel comédien.
C'est l'acteur studio. L'acteur studio. Bon, évidemment, on va parler de la mémoire. C'est horrible parce que quand on vieillit, vous verrez, vous savez, on ne se souvient plus des noms, simplement.
De façon,
on voit le visage. Oui, je vous remercie. On voit le visage et on cherche le nom. Et ça, c'est nous. Nouveau, et je vous jure, ça fait peur.
On va poser toutes les questions. Ouais.
12h19, à tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais.
Bien sûr, inoubliable, j'ai la mémoire qui flanche. Parlons, si je me souviens bien, donc de la mémoire.
Bah là, vous en avez. Vous saviez que c'était Jeanne Moreau. En ce moment, j'oublie tout, je ne retiens aucun nom. En cas de trou de mémoire, c'est vrai, on a tendance à vite s'inquiéter. Autant dire que nous avons beaucoup, beaucoup de questions à poser à notre invité, Pierre-Marie Liédot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur. Et il est vrai que très vite, on pense à la maladie d'Alzheimer.
Oui, effectivement, mais en fait, on oublie aussi que l'oubli est consubstantiel à la mémoire. C'est-à-dire que pour avoir une bonne mémoire, il faut aussi savoir trier et oublier.
Bon, quand doit-on s'inquiéter ? Par exemple, je disais tout à l'heure, j'ai 59 ans, très souvent, moi, je vois une personne, j'ai une personne en tête et je ne retrouve pas son nom. Ça m'est arrivé encore il y a 2 heures. C'est normal ? Je suis déjà en difficulté ? Faut que je consulte ?
Il faut toujours être vigilant, évidemment, sur nos aptitudes à mémoriser, nos aptitudes à reconnaître les signaux. Bien sûr qu'il faut être vigilant, mais en même temps, on peut aussi avoir des troubles liés au sommeil sans qu'il y ait vraiment une maladie derrière ça impactante. Donc, on oublie
vous
aussi...
Vous me rassurez pas tellement, je pensais que vous alliez me dire c'est normal, mais vous me fichez quasiment la trouille, parce que je pensais que vous alliez me dire, mais non, c'est normal.
Mais je suis en train de vous dire que c'est normal parce que dans la mesure où si j'ai des troubles du sommeil totalement temporaires, voilà. Donc on oublie souvent que voilà pour retenir l'information, il faut bien dormir.
En fait, bien dormir, d'accord. Mais est-ce qu'il faut faire des exercices? Est-ce qu'il y a un entraînement pour muscler sa mémoire? Et lesquels?
Bien sûr que le cerveau, on a souvent cette métaphore du muscle qu'il faut entraîner, absolument, bien sûr. Retenir, se forcer à retenir des informations. Et évidemment, consigner sa liste de courses sur un papier qu'on met dans sa poche, mais lorsqu'on va être dans chez notre commerçant, ne pas se précipiter sur sa liste et essayer de se remémorer par des artifices, hein. Par exemple, essayer de retenir une liste de courses en marchant et en y adressant une statue. Tiens, voilà, j'ai vu cette voiture, là, c'était sur le paquet de jambon, c'était sur cela. Donc, essayer d'attribuer à cette mémoire le plus de signaux de stimulation possible.
Ce qui est de plus en plus compliqué, hein, Pierre-Marie Ledo, surtout avec les téléphones. Aujourd'hui, les numéros, on ne les retient plus. C'est plus du tout une nécessité.
Alors, c'est vrai que le cerveau, il évolue avec les outils que nous inventons. Depuis qu'on a inventé l'écriture, déjà notre mémoire dite de travail, celle que je vais utiliser sur l'espace de quelques secondes et de minutes quand on m'a donné des chiffres à retenir par cœur, évidemment, cette mémoire-là de travail, elle diminue puisqu'on a écrit, on a inventé l'écriture. Donc, j'ai plus besoin de retenir et d'embarrasser ma mémoire de travail puisque j'ai consigné ma liste de courses sur du papier. Arrive le digital, c'est la même chose. On a des relations avec l'information qui sont en train de transformer comment fonctionne notre cerveau.
Mais les comédiens, par exemple, ils arrivent à retenir un texte jusqu'à 80 ans, donc nous-mêmes, on doit pouvoir y arriver si on s'entraîne.
Voilà, c'est ça la beauté quand même de cet organe, c'est que finalement, il n'est pas soumis à des lois de la nature qui voudraient qu'à partir d'un certain âge, on serait condamné à perdre inéluctablement nos informations les plus précieuses. Non, effectivement, il faut l'entraîner, il faut savoir apprendre toujours des poèmes, des hymnes, des choses qui ont certainement une relation peut-être un peu plus profonde dans les stimuli à l'homme, à l'humain. Il est très difficile de retenir des chiffres qui ne valent rien dire, mais retenir un poème quand on
donc
imagine
faut ça, le soir qui... peut-être apprendre voilà. Un petit poème avant de se coucher. Le poisson, c'est bidon, l'alimentation, un rôle.
Ça remonte au XVIIe siècle là déjà quand on était dans la chimie, qu'on avait effectivement montré que le phosphore avait une relation importante avec la mémoire, mais bien sûr que une alimentation équilibrée, sachant que par exemple notre cerveau c'est l'organe le plus énergivore, celui qui consomme le plus d'énergie dans notre corps, 30% d'énergie disponible engloutie par cet organe qui ne fait que 2% de la masse corporelle, c'est énorme. Eh bien, on se rend compte que, par exemple, il a besoin d'oxygène et qui amène l'oxygène au cerveau, eh bien, c'est le fer. Donc, soyons vigilants quand on sait qu'il y a 10% de gens carencés en fer, soyons vigilants sur notre apport nutritionnel en fer.
Et pourquoi une personne va mieux retenir, par exemple, les paroles d'une chanson que les numéros de département? Il faut qu'il y ait un centre d'intérêt pour que notre mémoire nous aide.
Alors souvent, quand on pense qu'on n'a pas une bonne mémoire, c'est que déjà le premier filtre, c'est l'attention. Rater une information parce qu'on n'a pas porté d'attention ne nous donne aucune chance de pouvoir retenir cette information. Donc chacun a des intérêts différents. On parle d'intelligence multiple parce que certains retiendront plus des sons, des images, d'autres une logique. Donc voilà, d'abord par quelle porte cette information me parvient, et deuxièmement, ensuite, est-ce que je vais être prompte à mettre dans une information que j'ai retenue dans ma mémoire une étiquette plus facilement parce que je suis enclin à garder en mémoire des voitures, des formes de voitures par exemple, plutôt que des visages ou des paysages.
Eh bien merci beaucoup monsieur Pierre-Marie Ledo, nous n'oublierons pas ce moment et les conseils que vous nous avez donnés.
Parfait.
La pause dans une seconde et nous revenons avec les infos, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30,
Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Agnès Bonfillon pour la grande édition du jour.
Le gouvernement l'affirme, il cherche plus que jamais une majorité naturelle sur la réforme des retraites. Le 49-3 n'a pas été évoqué en Conseil des ministres, dit le porte-parole Olivier Véran. À la veille du vote sur la réforme des retraites, la commission mixte paritaire tente toujours de trouver un compromis. Et puis, en coulisses, dernière tractation entre amis ou pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, une huitième journée de mobilisation partout en France. Nous irons à Saint-Dizier en début de journal. Les bourses européennes en forte baisse ce matin. Des places toujours inquiètes de ce qui se passe dans le secteur bancaire. Nous verrons cela avec Martial You. Et puis acheter des places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est reparti. Avant cela, vous le savez, il faut s'inscrire pour un tirage au sort. RTL midi, LVT midi à midi 50, RTL à 90 ans. Et forcément, ça se fête, Pascal, avec la question du jour notamment.
Allumez-vous la radio tous les jours et écoutez-vous RTL tous les jours. On en parlera à 13h avec les auditeurs et on écoutera des séquences cultes. Laurent Marsic sera avec nous et puis Sophie Jousselin sera avec nous également parce qu'elle fait le bêtisier chaque année. Donc elle nous racontera comment elle fabrique le bêtisier notamment.
La météo à la fin du journal. Mais déjà, vous nous dites un petit mot pour cet après-midi, Peggy.
Un temps beaucoup plus calme que la veille et surtout plus d'éclaircies.
Merci.
RTL midi.
Le trimestre anti-inflation, c'est donc parti.
Oui, normalement, depuis ce matin, dans les supermarchés, grâce à des logos tricolores, vous êtes censé repérer les prix les plus bas, les plus avantageux. Vous êtes censé, car dans les rayons, tout n'est pas si simple. Christian Panvert, difficile de trouver ces fameux logos.
Oui, sur les trois supermarchés et hypermarchés où je suis allé, Auchan, Carrefour, Leclerc, aucune étiquette représentant un chariot bleu, blanc, rouge. Ça énerve d'ailleurs André qui était venu spécialement pour ça ce matin.
Mais il n'y a rien. Faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, excusez-moi l'expression.
En revanche, les grandes surfaces ont mis en place des affiches sur lesquelles on peut lire par exemple 500 produits bio à 2 euros ou encore 200 prix serrés. C'est ce qu'ont constaté Virginie et Alain.
Tout à fait, on voit des promos du supermarché, de l'enseigne qui fait de la pub et des promos sur ses propres produits.
Moi j'ai vu des étiquettes par-ci par-là, prix modéré mais c'est tout. Mais pas le panier inflation, non, je ne l'ai pas vu. Bon, je comptais pas trop là-dessus, alors ça me gêne pas beaucoup.
Aline est caissière chez un concurrent. Là où elle travaille, rien n'a été mis en place non plus. Elle n'attend d'ailleurs pas grand-chose du trimestre anti-inflation.
C'est aux gens de regarder les prix et de comparer le prix au kilo, le prix au litre. Ouais, c'est comme ça que ça marche.
Dans les allées d'un hypermarché, je viens de croiser des salariés qui me confirmaient que tout serait mis en place dans la semaine.
Le reportage de Christian Panvert à Tours pour RTL. Si vous faites partie des 5 millions de salariés qui bénéficient de tickets restaurants, attention, vous avez jusqu'à ce soir pour échanger ceux de 2022 contre des tickets 2023. Il faut le demander à votre employeur.
Dernier grand jour de manifestation avant le vote de la réforme des retraites prévue demain à l'Assemblée nationale.
C'est maintenant ou jamais. Les syndicats espèrent une très forte mobilisation. Certains opposants sont effectivement très déterminés. Exemple sur ce rond-point de Saint-Dizier en Haute-Marne, un rond-point devenu symbolique depuis les Gilets jaunes. Samuel Goldschmidt, là-bas, pas question de baisser les bras.
Oui, et on retrouve vraiment l'ambiance de 2018 et on est attentif effectivement à ce qui se passe au niveau de la commission mixte paritaire et aussi en prévision du futur vote. Renaud Sylvain est représentant de la CFTC Métallurgie, ils sont nombreux ici les métallos.
C'est simple, s'ils disent non, ça veut dire que l'État décide d'être contre les citoyens, contre les syndicats, contre le peuple, hein, on va dire carrément. On verra après comment on va faire. C'est à réfléchir ensuite, parce que si l'État, même si, comme on l'entend dire, que les gens, bah, parce que ça a été voté, qu'il faut laisser tomber, non, parce qu'il y a un moment, bah, s'il faut resserrer, on serra.
Voilà, on pense déjà à la suite, comme Éric Bardot de Sud Éducation. La cible, comme en 2018 avec les Gilets jaunes, c'est directement Emmanuel Macron.
Vous savez, on n'attend pas grand-chose du politique. Hein. On sait pourquoi ils sont là. Il y a un travailleur sur deux qui a plus de 60 ans et qui ne bosse plus déjà aujourd'hui. Rappelons quand même que son CNR n'est pas le CNR de 46. Le ministre du Travail de l'époque et le ministre du Travail d'aujourd'hui ne travaillent pas pour les mêmes objectifs. À l'époque, on travaillait pour le monde ouvrier et travailleur. Aujourd'hui, on sait pourquoi il est là. Il est là pour qu'on travaille plus, pour produire plus. Qu'il rentre chez lui, on n'a rien à en attendre. Ce qu'on attend, nous, c'est la démocratie de la rue, elle y est. Tant qu'il ne comprendra pas ça, on restera là.
Voilà, le CNR de 46, c'était le Conseil national de la résistance qui a donné ce qui a été institué après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce fameux ministre du Travail, c'était Ambroise Croizat, cégétiste, métallo. Et effectivement, c'est à lui qu'on pense beaucoup sur ces ronds-points. Il y a évidemment des embouteillages dantesques en ce moment autour de Saint-Dizier.
Samuel Goldschmidt à Saint-Dizier pour RTL. Pendant ce temps, la commission mixte paritaire continue sa recherche de compromis. Depuis ce matin, 9h, 7 députés et 7 sénateurs tentent de se mettre d'accord avant le vote demain. Alors on a les échos de ce qui se passe à l'intérieur grâce aux réseaux sociaux et membres de la NUPES, Marie-Bénédicte Allaire. Vous nous le disiez hein, tout à l'heure à midi, un accord sur les carrières longues a été trouvé.
Bah oui, parce que macronistes et LR veulent mettre toutes les chances de leur côté pour aboutir et ils sont donc arrivés ce matin avec cet accord déjà ficelé en amont. 43 ans de cotisation pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans et qui ont tout leur trimestre. Les parlementaires reprennent maintenant l'examen du texte point par point, mais l'appréciation des débats n'est pas tout à fait la même de part et d'autre. La députée Renaissance Fadila Khattabi, qui anime les discussions, se félicitait tout à l'heure de l'ambiance.
Tout est calme pour l'instant. De toute façon, mes chakras, moi, ils sont bien ouverts. Donc, ça se passe plutôt... Oui, tout à fait. Je n'ai pas mis de chronomètre. Donc, les gens se sont exprimés librement, ont pris le temps de s'exprimer. Et donc, il est faux de dire que la démocratie est piétinée, que nous sommes bridés, etc.
Alors que le socialiste Arthur Delaporte n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
On nous a distribué ce document Word en mode suivi des modifications de 110 pages à 9h35-40. C'est-à-dire, il y a en gros une heure de ça, on a eu les 110 pages qui vont décider de la vie de millions de Françaises et de Français. C'est ce qu'on nous impose ici, c'est de discuter sur une base qu'on n'a pas le temps de dire.
On est sans doute parti pour une longue journée dans cette CMP qui est tout sauf habituelle.
Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Et évidemment, nous reviendrons sur cet événement du jour, cette veille de vote à l'Assemblée nationale avec tout à l'heure Olivier Bost et Thomas Després.
RTL Midi.
Les bourses européennes en forte baisse toujours ce matin.
Moins 3,23% à Paris, moins 3,48% à Milan, moins 2,50% à Francfort. Le secteur bancaire toujours au centre des incertitudes après la faillite de deux établissements hein, aux États-Unis. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Alors expliquez-nous ce qui se passe sur les marchés.
Alors d'abord, il y a une vraie inquiétude plus forte hein, que ces deux derniers jours sur le secteur bancaire en Europe. Là, vous avez une chute pour BNP Paribas en ce moment de 11,45%. Pour la Société Générale, on est à plus de 11%. Et le Crédit Agricole à moins 6,23%. Il y a deux jours, on avait fini à moins 2, moins 3. Pour
oui.
Pour
ces, et surtout, il y a deux jours, voilà. Mais il a dit que c'était deux petites banques américaines et que ça n'avait aucun rapport et que ça n'allait absolument pas impacter les bourses européennes.
Parce que ce n'est pas l'explication d'aujourd'hui.
Ah.
L'explication d'aujourd'hui, l'inquiétude...
En deux jours, ça change.
Eh ben, oui, parce que ça va très vite sur les marchés financiers. Vous savez. Non, mais là, aujourd'hui, le vrai souci, ce qui inquiète beaucoup les Européens, c'est la situation du Crédit Suisse, qui est quand même une des plus grosses banques européennes, où là, toutes nos banques, qu'elles soient françaises, allemandes ou anglaises, ont des liens financiers évidents. Or, ça fait des mois maintenant que la banque suisse est en difficulté, on le sait. Elle s'est séparée par exemple de son PDG français Tidjane Thiam il y a plusieurs mois. Un de ses actionnaires historiques il y a quelques semaines, le fonds d'investissement Harris Associates, s'est retiré du capital et aujourd'hui, et c'est pour ça que ça chute, c'est la banque nationale saoudienne qui vient de dire qu'elle ne renflouerait pas l'établissement suisse. Donc il y a un souci autour du Crédit Suisse et c'est ce qui inquiète énormément le secteur bancaire européen dans son ensemble.
Même les banques suisses font faillite,
c'est bien ça.
Cher Marc. fiscale.
C'est pour ça que ça inquiète.
Alors, elle fait là, pas vous faillite. Inquiétez fortement, du
elle
coup.
Fait, elle n'est pas forcément en train de faire faillite, mais il y a un souci, effectivement, sur les fonds véritablement gérés par le Crédit Suisse.
Ce qui veut dire que vous êtes un peu plus inquiet qu'il y a 2 jours, vous-même.
Un peu plus inquiet, effectivement, sachant que l'autre motif d'inquiétude, il est marginal, c'est qu'on a peur que la Banque Centrale Européenne ne relève encore ses taux, ce qu'elle fait depuis des mois et qui met en difficulté les entreprises endettées.
Merci beaucoup Martial Liu pour ces explications.
Des classes d'école où les livres sont interdits, cela se passe aux États-Unis en 2023.
Oui, dans certains comtés de Floride, les enseignants, figurez-vous, doivent retirer ou cacher tous les livres, même les comptines, en attendant qu'ils soient validés par les autorités. En fait, le gouvernement de Floride a décidé de chasser toute référence à l'homosexualité, au transgenre ou au passé esclavagiste, Lionel Gendron.
Oui, devant le conseil scolaire du comté, une trentaine de manifestants jettent des livres au feu. Un faux feu en carton, des livres comme « L'œil le plus bleu » de Toni Morrison, prix Nobel de littérature, un livre sur l'esclavage. Parmi les manifestants, il y a Inisin, 9 ans.
Ce sont des questions politiques. Pourquoi les enfants devraient en subir les conséquences?
À l'école, Inisin est mise à l'écart pour avoir défendu une amie qui se dit transgenre. Ses parents ne veulent plus rester en Floride.
On devrait déménager en Virginie, près de Washington. On pourrait faire plus de choses.
Jennifer, elle, dirige l'association Les Mères pour la Liberté, proche des conservateurs. Pour elle, ce n'est pas de la censure, mais du droit parental.
Notre mission, c'est de protéger les enfants de la pornographie. C'est la loi, ce n'est pas de l'opinion. On a contesté 250 livres et on va continuer.
Mais le débat n'est pas serein. Des enseignants qui se sont publiquement opposés au retrait des livres ont reçu des menaces. C'est le cas d'Adam, un professeur d'anglais à qui l'on a promis une balle ou une corde. Il a alerté le FBI.
Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis.
L'achat des billets pour Paris 2024, c'est donc reparti, c'est la deuxième salve.
Exactement, deuxième phase de vente avec un mode d'emploi similaire, Isabelle Langer.
Oui, il faut s'inscrire sur la plateforme ticketaupluriel.paris2024.org avant le 20 avril 18h. Mais si comme moi, vous aviez coché l'option des 2 tirages lors de votre inscription en janvier, alors vous avez dû recevoir hier un mail pour vous le confirmer et vous donner rendez-vous le 11 mai, date à partir de laquelle vous pouvez être tiré au sort pour acheter vos places individuelles.
Et cette fois, que peut-on acheter ?
Eh bien, toutes les épreuves sont ouvertes à la vente, notamment les grandes finales et
Skyfall.
Les cérémonies d'ouverture et de clôture. Vous pouvez acheter jusqu'à 30 places pour un maximum de 6 billets par session. Attention, hein, si vous avez eu le bonheur d'obtenir des tickets lors de la première phase, il faut les déduire de votre quota. Par exemple, si vous avez déjà acheté 30 places avec les packs, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité d'en reprendre.
Et là, les prix s'envolent, on imagine ?
Prévoyez entre 125 et 980 euros pour les finales des épreuves rennes, celles du 100 mètres en athlée,
980 euros.
En natation, en basket masculin. Pour les finales du concours général féminin en gymnastique, c'est entre 125 et 690 euros. Entre 95 et 360 euros pour les grandes finales de judo, dont celle de Tenier Rainer. Et pour s'installer, Pascal, sur les kebabs, pour assister à la cérémonie d'ouverture, il vous en coûtera, ça va vous faire mal aux oreilles, de 90 à 2700 euros. Mais c'est gratuit sur les quais hauts.
Non mais 980 euros pour une place,
c'était
sans doute
la
mieux.
À Tokyo, s'il y avait
mais je m'en fiche que ce soit à Tokyo. Moi on me dit ça, mais c'est pas des jeux populaires. 980 euros pour
si
pas une place
au 100
mètres.
Si on ne met pas des sous dans la cagnotte de la billetterie, on ne rembourse pas les jeux sans avoir accès aux impôts.
Ça c'est pas raisonnable, me semble-t-il. Une place à 980 euros, c'est pas raisonnable.
Oui, vous faites beaucoup en grondé en ce moment.
Oui,
Isabelle
je me fais gronder à chaque fois que je viens là et que je parle des Jeux Olympiques, donc je vais repartir.
Merci beaucoup. Une finale de 100 mètres, ça fait
Isabelle
cher.
Langer.
Merci Isabelle Langer.
On passe à la météo avec vous, Peggy Broche. Plus d'éclaircies en vue, et ça c'est bien.
Oui, je ne me ferai pas disputer, je
non,
pense que ça devrait aller.
Je dispute tout le monde, c'est le principe.
D'accord, ok. Alors, plus d'éclaircies en effet cet après-midi, au fil des heures, entre le sud-ouest et le nord-est. On a du beau soleil, ça se dégage bien entre les Pyrénées, un quart sud-est et la Corse, mais on a toujours du Mistral et de la Tramontane. Attention, parce que le risque d'avalanche est très fort et bien marqué sur les Savoies. Et sur un quart nord-ouest, eh bien là, on aura un peu plus de nuages cet après-midi au fil des heures, entre nuages et éclaircies, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant vers la Vendée avec peut-être une petite averse du côté des Ardennes. Et ce sera bien gris et bien couvert, avec quelques gouttes également entre la Bretagne et la Normandie. Tout ça sous des températures alors qui sont un peu juste sur la moitié nord et qui sont de saison, voire un peu plus dans le sud. On aura cet après-midi 9 degrés à Metz, 10 à Abbeville, 11 du côté d'Aurillac, 12 à Paris Paris et Orléans, 13 à La Rochelle et Grenoble, 14 à Nantes, 16 à Marseille, 17 à Biarritz, 18 à Montpellier, jusqu'à 19 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup Peggy.
Thomas Després du service politique est entré dans le studio avec Olivier Bost. Bonjour Olivier.
Bonjour Pascal. En ligne, Pascal.
Vous aurez peut-être une boule de cristal pour nous dire ce qui va se passer demain. On en parle dans une seconde.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Ils discutent un peu et puis nous disent, bon ben voilà, si vous avez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur pour votre circonscription, bon, on peut en discuter. Et souvent nous disent, bon bah vous êtes plutôt pour, plutôt contre. Si vous n'êtes pas franchement contre, vous pouvez peut-être vous abstenir. C'est une discussion informelle.
Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur RTL. Paul Molac, un député indépendant breton, qui dit avoir été approché la semaine dernière par un conseiller de la Première ministre. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Ça se passe comme ça en coulisses alors ?
Bah oui, quand votre vote intéresse le gouvernement, ça peut se passer comme ça, des appels de conseillers comme c'est le cas pour ce député, mais aussi parfois directement de ministres. On sait par exemple que Bruno Le Maire a pris son téléphone pour appeler d'anciens camarades de LR. Un autre ministre, Franck Riester, lui aussi accélère le fait. Il en a même vu hier soir. Mais qu'on soit bien clair, pour couper court au fantasme, c'est quelque chose qui est assez habituel. Tous les députés qu'on a pu interroger nous disent la même chose. Ils sont dragués sur chaque texte où la majorité peut être un peu serrée.
Peut-on passer de la carotte au bâton ?
Alors, c'est difficile à dire, parce qu'en soi, le gouvernement a un peu de prise sur les députés LR. En revanche, oui, on l'a entendu ces derniers jours, les députés de la majorité ont reçu des menaces très claires. S'ils ne votent pas la réforme des retraites, ils seront exclus de leur groupe. Alors attention toutefois à ne pas trop tordre le bras, ça pourrait en braquer certains.
Olivier Bost, je me tourne vers vous. Concrètement, que peut-il se passer maintenant ?
Alors, pour faire simple, déjà, il reste trois étapes. Aujourd'hui, on en parlait dans le journal de midi et demi, c'est la CMP, la commission mixte paritaire, sept députés, sept sénateurs qui doivent tomber d'accord sur une nouvelle version, la dernière version de la réforme des retraites. Alors, cette opération peut échouer, mais c'est peu probable. Alors, si c'est le cas, ça serait retour à la case départ, on n'en parle pas, on en parlera si vraiment ça se produit. Mais pour reprendre le fil, ce soir, en fait, à la fin de cette commission mixte paritaire, c'est vraiment là que le décompte va commencer. Le gouvernement, des membres des cabinets, des ministres, etc., vont de nouveau solliciter les députés pour savoir finalement si, après avoir vu ce dernier texte, ils ont changé de position, donc s'ils vont voter pour, s'ils vont voter contre ou s'ils vont s'abstenir. Et c'est vraiment là que le calcul dont on vous parle depuis la fin de la semaine dernière commence pour de vrai. Et c'est là qu'on verra pour le gouvernement ce qu'ils peuvent éventuellement faire.
Et c'est vraiment très important le vote de demain, la façon dont aura lieu ce vote, parce que ou ça s'arrête ou ça s'arrête pas. Si c'est voté sans le 49-3, ça s'arrête.
Oui, en tout cas pour
trois syndicats.
Politiquement, ça s'arrête, ça c'est sûr.
Et si ça passe avec le 49-3, ça continue. Donc l'enjeu est au cœur, quoi. Le 49-3 est au cœur de la suite.
Complètement. Vous avez trois hypothèses, effectivement. L'adoption, vous l'évoquiez. Dans ces cas-là, fin de l'histoire sur le plan politique. Victoire pour Emmanuel Macron quand même après beaucoup de suspense. Et pour Elisabeth Borne, bon, pas la peine d'en parler, mais ça sera, son avenir de toute façon sera compliqué. Ensuite, deuxième hypothèse, effectivement, on dégaine le 49-3. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote et que c'est une adoption de la loi sans vote des élus. Là, ça pose une grosse difficulté parce que vis-à-vis du mouvement qu'on a vu, ça peut potentiellement, mouvement social, ça peut potentiellement le relancer. Et sur le plan politique, alors Elisabeth Borne, dans ces cas-là, elle est cramée, très clairement. Et ensuite, on ne voit pas bien comment ça peut évoluer et se terminer au niveau du mouvement social. Et puis enfin, dernière hypothèse, parce que ça peut rester un pari, le vote de demain pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ça peut être très juste dans les calculs qui seront faits ce soir ou qui seront faits même jusqu'à demain midi. Et dans ces cas-là, si la réforme ne passe pas, c'est-à-dire s'il y a une majorité de députés qui votent contre la réforme des retraites, là, on plonge dans quelque chose de pas d'inédit, mais de quand même très 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 compliqué pour Emmanuel Macron. Parce que ça veut dire que sa promesse de campagne ne sera pas honorée. Ça veut dire que la première année du second quinquennat est quasiment effacée. Et sans exagérer, ça serait le début d'une autre histoire, c'est-à-dire le début d'une crise politique.
Les 12h51, merci Olivier Bost, RTL à 90 ans, Laurent Marcy, quelques années de moins, et il va...
bah oui,
merci de le préciser.
Ce que j'ai entendu ce matin avec Cyprien Signy, et je pense que c'est vous qui êtes la mémoire hein, d'RTL, c'est vous qui gardez tout, c'est exceptionnel. Et notamment Michel Drucker qui va frapper dans la cabane au fond du jardin pour la valise. Ah, oui. J'espère qu'on le réécoutera. À tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
Un anniversaire dans Laissez-vous tenter. RTL fête aujourd'hui ses 90 ans, né officiellement le 15 mars 1933. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Toute la journée, nous explorons les archives de notre belle et grande maison. Moment d'émotion, moment historique ou drôle.
La nuit, le jour, ami fidèle, c'est Luxembourg.
Ça ouvrait l'antenne, ça. 15 mars 1933 démarre au Luxembourg, celui qu'on surnomme alors le grand poste européen. Il faut attendre 1936 pour qu'RTL s'installe à Paris, rue Bayard. Juste avant ça, on le sait moins, les premiers studios de la radio étaient à quelques centaines de mètres de là, rue de Ponthieu, pas très loin des Champs-Élysées. À l'époque, on grave les émissions sur disque à Paris et ces disques sont acheminés en voiture vers le Luxembourg pour être diffusés via l'émetteur grandes ondes de la station. C'est la grande époque des feuilletons pour les parents et pour les enfants. Voici deux extraits. Ça va bouillir avec Zapimax et les Duratons.
Je cours un terrible danger. Je suis couché par terre dans la chambre de Ludo. Après de durs efforts, je suis presque parvenu à scier les cordes qui me liaient les mains.
13h10, les Duratons permissionnaires avec Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Yvonne Galli et Lise Lina.
Ginette, sois gentil, apporte-moi l'annuaire du téléphone.
À l'époque, il y a quand même 18 millions d'auditeurs qui écoutent ça. Très vite, la radio est partout, sur tous les fronts. L'information, par exemple. Souvenir, 1953, en Angleterre, couronnement d'une toute jeune reine, la reine Elisabeth II.
À présent, Elisabeth II prête serment.
All this I promise to do.
Le cœur entonne un introïte.
C'est toujours émouvant, hein, Laurent, d'entendre ça.
Oui, alors l'émotion, y en a aussi avec ceci, tiens, celle qui fut la plus grande confidente des auditrices à la radio, Ménie Grégoire. Elle a été la première à parler sexualité à la radio dans les années 80 à 86. Un jour, il y a une auditrice qui l'appelle, elle veut mourir.
On me dit que j'ai un coup de téléphone très urgent. Je crois qu'il faut que je le prenne maintenant. Alors je le prends tout de suite. Allô ?
Allô ?
Allô, oui, bonjour.
Bonjour, oui. Madame. Je m'excuse, la tête est un petit peu décousue parce que je suis...
Ça n'a pas d'importance.
Je suis très ébranlée.
Oui.
Mon intention première était de me suicider aujourd'hui.
De vous suicider aujourd'hui ? Pourquoi ?
Parce que je suis enceinte encore.
Parce que vous êtes enceinte ? Oui. Vous êtes mariée, pas mariée ?
Oui, je suis mariée, mais j'ai un petit enfant qui a 12 ans et qui a 1 an.
Bon, pourquoi est-ce que ce serait vous qui vous tueriez dans cette histoire ? Je vois pas très bien.
Voilà. Ce qui est incroyable, c'est le naturel bien de Ménie Grégoire et donc la modernité. La radio n'a cessé d'inventer.
Tout le temps, et bien avant la télé, l'ancêtre de The Voice, tiens, était sur RTL, le crochet radiophonique dans les années 50-60 avec Marcel Faure et ce moment inoubliable.
Amis auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce jeune homme, et je tiens à le signaler, n'a que 16 ans et demi. Mais ce qui est, je crois, à nos yeux le plus important, c'est qu'il est le compositeur et l'auteur de cette chanson. Qui s'appelle ?
La première fois que je t'ai vu.
La première fois que je t'ai vu. Eh bien, je crois que ce monsieur ne serait pas déplacé dans un grand music hall parisien. Bravo, monsieur Adamos Salvatore.
Salvatore Adamo, il a démarré là. C'est aussi une curieuse émission où RTL organisait des rencontres amoureuses entre auditeurs dans un studio avec vitres sans teint pour les laisser tranquilles. C'est un homme et une femme dans les années 70.
Un homme, une femme, l'émission de Jean-Pierre Cuny et de Jacques-Antoine.
Vous avez un flirt actuellement, vous avez un amant, un flirt, un petit copain.
Oui.
Donc sur ce plan, vous n'êtes pas...
Je suis pas abrimée, je suis pas frustrée, non. De toute façon, il n'y a pas d'issue.
Pourquoi il n'y a pas d'issue?
Bon, de toute façon...
Qu'est-ce que vous entendez par il n'y a pas d'issue?
Non.
Vous voulez dire qu'il est déjà marié, c'est ça?
Exactement.
Ce sont des centaines d'heures d'émissions, ce sont des rois et des empereurs qui officient à l'antenne, empereurs comme Fabrice évidemment et sa casse trésor. Fabrice qui, comme les autres, avait dans son émission la fameuse valise RTL avec des moments savoureux. Tiens, comme celui-ci, la somme est tellement énorme que la dame n'arrive même pas à compter. Alors elle donne les chiffres un par un.
Ne vous énervez pas, madame
non.
Ternon.
Alors attendez, parce que moi, les nouveaux chiffres, je les connais pas.
Ah.
Alors, 1.
Oui.
5.
Oui, nous sommes d'accord.
7.
Oui.
6.
Oui.
5.
Ah, ça, on ne l'a jamais fait encore, ça.
115 765 francs en 89, ça fait quand même 30 267 euros d'aujourd'hui. Moment émouvant ou drôle encore. Dans les années 60, Walt Disney est en France pour annoncer son prochain film, Les 101 Dalmatiens. Sauf que le journaliste de Radio Luxembourg ne parle pas anglais. Heureusement, il y a un invité qui est là, Jean Gabin. Allez, hop.
Jean Gabin, auriez-vous la gentillesse de servir de traducteur pour Radio Luxembourg auprès de Monsieur Walt Disney?
Je veux bien essayer, mais je ne parle pas tellement bien l'anglais, mais enfin...
Souvent, on lui reproche de donner aux animaux, dans ses films, un caractère un peu trop humain. Voulez-vous lui demander si c'est juste?
He says that the public asks for what?
Voilà, ils vont s'en sortir quand même. Le rire, évidemment, avec les grosses têtes en 1977, et puis mythique, un sketch d'1h30, une seule question et réponse de Jean-Yann et Jacques Martin sur Montluçon.
Oh, la vieille ville,
la vieille ville de Montluçon,
ça, entièrement reconstruite après la Seconde Guerre mondiale avec des boîtes d'allumettes.
Et Montluçon chantier, c'est de la merde.
L'émotion et l'historique, c'est aussi encore des moments plus proches de nous lorsqu'Anthony Martin et Éric Jean-Jean ont eu la chance de recevoir pour quelques chansons dans le grand studio d'RTL une immense star.
My name is Prince.
S'il vous plaît.
Et c'était très chouette.
Vous allez rester avec nous jusqu'à 14h30 parce qu'on se régale à vous écouter. L'info revient dans quelques secondes.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute. RTL.
On est un poil en retard, il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
RTL à 90 ans. Didier va nous parler des routiers sont sympas dans une seconde. Mais comme on est un poil en retard, Agnès, vous allez rappeler les titres du jour.
La grève des éboueurs, le bras de fer se durcit entre la mairie de Paris et l'État. Pendant ce temps, 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec près de 200 rassemblements prévus partout en France. Les tractations, elles, s'intensifient en commission mixte paritaire avant le vote du texte demain à l'Assemblée nationale. Les bourses européennes en forte baisse ce matin. Le secteur bancaire toujours au centre des inquiétudes. Cette fois, ce ne sont pas les faillites américaines qui posent problème, mais Crédit Suisse. Le détenu qui s'était évadé lundi d'une prison en Dordogne a été interpellé à Nice, tout près du domicile de son père. Philippe Dubois, 54 ans, a été reconnu par des témoins. Il purge actuellement une peine de 28 ans pour un double assassinat commis justement sur la Côte d'Azur en 2002. La météo. Un temps plus sec, Peggy Broche.
Oui, c'est vrai que cet après-midi, il ne reste que quelques gouttes, si je puis dire, du côté de la Bretagne et la Normandie, sous un ciel bien couvert. Quelques gouttes également sur les Ardennes. Et sur un quart nord-ouest, on aura plus de nuages entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la Vendée, même si les éclaircies seront encore là. Plus d'éclaircies, et ce sera plus lumineux que ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Et entre les Pyrénées et un quart sud-est, là, le soleil s'impose, avec toujours Mistral et Tramontane. Et attention au fort risque d'avalanche sur les Savoies. Les températures, elles sont un peu juste par endroits au nord et douce au sud. Il fera seulement 9 degrés à Nancy cet après-midi, 10 à Strasbourg, 11 à Cherbourg et Rouen, 12 à Paris et Nevers, 13 à Clermont-Ferrand et Tours, 14 degrés à Limoges, 16 à Toulouse, 17 à Nîmes et Toulon, 18 à Tarbes et jusqu'à 19 degrés à Perpignan.
Et demain, un petit mot?
Demain, en gros, du soleil sur les deux tiers sud du pays, un ciel un peu plus voilé au nord avec un voile bien dense, surtout dans l'après-midi sur les bords de Manche et une nouvelle perturbation qui va arriver dans l'après-midi par le Finistère et donner quelques pluies. Ce sera un peu plus nuageux sur le Roussillon, sous des températures qui restent froides avec quelques petites gelées sur le nord-est et le centre-est. Le matin et l'après-midi, elles sont en hausse partout. 15 à 19 degrés au nord, 17 à 27 degrés au sud.
Merci beaucoup Peggy.
Merci Peggy, merci Agnès, merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction chef de ce 12-13. Merci également à Sophie Orange qui était présente. Il est 13h05 et donc nous partons avec les auditeurs. Les auditeurs.